Vous écoutez, on lit pour vous.
Le refuge pour itinérants de l'Estougouge, au bord de la fermeture, un texte d'Alice Jacotin, paru le 31 janvier 2025, dans Espace autochtone. Le refuge pour personnes itinérantes Ebgwajg à l'Estougouge, en Gaspésie, devrait prochainement fermer ses portes, en raison du retrait du financement de Services autochtones Canada. Nous n'avons absolument pas le choix. Nous devons fermer, répète la présidente du CA du refuge, la docteure Cathy Martin. J'ai fait pression sur le gouvernement, j'ai supplié de nombreuses organisations, et la réponse est la même. Il n'y a pas de financement opérationnel pour garder le refuge ouvert, déplore-t-elle. La maison d'urgence était subventionnée depuis près de 3 ans par Ottawa. Sans les fonds fédéraux, le refuge indique ne plus pouvoir payer ses salariés, la gestion du refuge ou encore de la nourriture pour les personnes itinérantes. Nous pourrions obtenir du financement provincial pour un refuge si nous le construisions en dehors de la communauté, précise la docteure Cathy Martin. Elle affirme que si le gouvernement retire ses subventions auprès de l'Estougouge, il continue de financer la lutte contre l'itinérance autochtone à Montréal, Québec ou Gatineau. L'itinérance en région, grande oubliée, alors que Québec dénombre une surreprésentation des Autochtones chez les sans-abri, l'île de Montréal et les centres urbains sont sous le feu des projecteurs. Pour l'itinérance des Premières Nations, ils annoncent de grandes sommes. Mais cet argent est uniquement destiné aux milieux urbains, indique la docteure Cathy Martin. Ils ne se préoccupent pas du fait que des gens dorment sous des ponts, dans des cabanons ou sous des porches, parce que cela se passe dans une communauté autochtone et que personne d'autre ne le voit. Mais si cela se produit à Montréal, alors c'est un problème. Car là, on dira que c'est inhumain, dit la docteure Cathy Martin. Ils préfèrent donc uniquement résoudre l'itinérance dans les villes, là où tout le monde peut la voir, conclut-elle. La question du financement des refuges pour sans-abri dans les communautés n'a jamais été discutée. Voilà ce qu'on m'a dit, se désole la présidente. Dans une déclaration écrite acheminée à Radio-Canada après la publication de cet article, Services autochtones Canada, SAC, explique que le programme « Voie vers des communautés autochtones sûres » prévoyait l'octroi entre 2022 et 2025 d'un montant de près $1 million au gouvernement de l'Estougouge pour l'abri temporaire Ebgwajg. Alors que la fin de ce programme est prévue pour 2026, SAC indique avoir conseillé d'autres sources de financement au refuge. Toujours par écrit, sa porte-parole, Jennifer Cooper, défend que le mieux-être et la sécurité des Autochtones demeurent une priorité pour le ministère. Un refuge pour toutes et tous. La directrice ajoute que le refuge était ouvert à tout le monde, même en dehors de la communauté Mi'kmaq de l'Estougouge. C'était un refuge situé dans le territoire des Premières Nations, mais nous n'avons jamais tourné le dos à personne, explique la docteure Cathy Martin. On aidait tout le monde parce que l'itinérance n'a pas de race ou de genre. La faim ne fait pas de distinction. Peu importe ton origine, que tu sois caucasien ou d'une Première Nation, si tu as faim, tu as faim, dit-elle. Elle précise que le refuge offrait son toit, de la nourriture et des vêtements propres aux communautés voisines de l'Estougouge, notamment au Nouveau-Brunswick. Les hôpitaux, la GRC et la SQ nous envoyaient des personnes en détresse. Elles avaient un endroit sûr où se reposer avant qu'on ne les oriente vers des services adaptés, ajoute la docteure Martin. D'autres maisons d'aide et d'hébergement restent ouvertes en Gaspésie, à Pointe-à-la-Croix ou Sainte-Anne-des-Monts, mais il ne s'agit pas de refuge pour sans-abri autochtones comme celui d'Epgwasque, conclut la docteure Cathy Martin. C'était le refuge pour itinérants de l'Istougouge au bord de la fermeture, un texte d'Alice Jacotin, paru le 31 janvier 2025 dans Espace autochtone.
Les États-Unis, une nouvelle menace sur le reste du monde. Un texte de Fabien Deglise, paru le 11 février 2025 dans Le Devoir. Les menaces d'absorption du Canada par le nouveau président américain Donald Trump, tout comme ses visées expansionnistes contre le Groenland, le canal de Panama ou son plan de transformation de la bande de Gaza en nouveau territoire immobilier à développer, viennent confirmer que les États-Unis rejettent désormais leur statut de gardien de l'ordre international libéral, de garant de la paix et du progrès mondial. Dans la foulée, Washington devient un risque contre lequel il faut se prémunir, estiment les auteurs d'un rapport sur la multipolarisation du monde publié en février 2025 par les organisateurs de la conférence de Munich en Allemagne. Depuis le retour du populiste à la Maison-Blanche, le gouvernement américain a, en quelques jours à peine, envoyé à la communauté internationale une convergence de faisceaux suggérant que les États-Unis ne sont plus un point d'ancrage de la stabilité, comme ils l'ont été depuis plusieurs décennies, estiment les auteurs du rapport. Selon eux, l'ère post-guerre froide unipolaire dominée par cette puissance est révolue et fait place à un monde incertain et multipolaire frappé par vagues d'autocratisation qui a modifié l'équilibre idéologique mondial du pouvoir, peut-on lire dans le rapport. L'ordre futur pourrait ainsi s'en retrouver plus désordonné et menacer au passage les règles, principes et modèles de coopération quasi universels qui jusque-là prévalaient dans les relations internationales. Un monde multipolaire ne doit pas devenir un monde dans lequel chaque pôle agit à sa guise, ni dans lequel l'état de droit est mis à mal, tant au niveau international qu'au niveau national, prévient Christophe Heusgen, président de la conférence. Comme beaucoup de gens dans le monde l'espèrent, un monde multipolaire pourrait s'avérer plus juste, plus équitable, peut-être même plus pacifique. Mais il pourrait aussi inverser les progrès, alimenter les inégalités, porter atteinte aux droits de la personne, entraver la résolution des problèmes mondiaux et rendre la guerre plus probable, ajoute-t-il. Montée des autocraties. La conférence de Munich, un important forum qui rassemble les leaders du monde chaque année pour discuter de politiques de sécurité, va s'ouvrir cette semaine sur le constat renouvelé selon lequel plusieurs blocs politiques dans le monde suivent désormais la montée des populistes illibéraux dans les démocraties libérales. Ces nouvelles figures affichent souvent des affinités idéologiques étroites avec les gouvernements autocratiques étrangers. Dans ce contexte, l'hégémonie libérale a été remplacée par une concurrence ouverte entre démocratie et autocratie qui sape l'idée d'une cohésion de l'Occident. Depuis près de 15 ans, les démocraties libérales se retrouvent sous pression, voire en recul dans le monde, indique le rapport. En 2023, 71% de la population mondiale vivait dans un pays autocratique, contre 48% 10 ans plus tôt, selon le dernier état des lieux des démocraties dressé par l'Université de Göteborg en Suède. En 2023, 42 pays étaient sur la voie d'une transition autocratique, tandis que seulement 18 pays étaient en chemin vers la démocratie. Les États-Unis étaient toujours considérés cette année-là comme une démocratie libérale. La conférence de Munich sur la sécurité va être une des premières rencontres au sommet entre plusieurs hauts dirigeants et militaires européens avec l'équipe de Donald Trump, dirigée en Allemagne cette semaine par son vice-président J.D. Vance. L'homme va être accompagné du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et de l'envoyé spécial américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg. Vendredi le 7 février 2025, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a indiqué qu'elle comptait certainement y discuter des attaques du gouvernement Trump contre l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, avec son homologue Marco Rubio, qui dirige l'agence à titre intérimaire. La mise à sac de ses programmes et de ses effectifs par le nouveau gouvernement de Donald Trump menace, selon plusieurs experts, la paix et la stabilité dans le monde. Madame Joly doit présider la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. Des guerres commerciales à des guerres tout court? À l'approche de cette rencontre, le climat de tension internationale est maintenu par Donald Trump qui, depuis son retour au pouvoir, dégaine chaque semaine des tarifs douaniers qui menacent de détruire les équilibres commerciaux et les perspectives de croissance de l'Amérique du Nord, a dénoncé mardi le gouvernement mexicain. Le Mexique, tout comme le Canada, a été particulièrement frappé cette semaine par l'annonce de droits de douane de 25 % sur toutes les importations américaines d'acier et d'aluminium dès le 12 mars, peu importe leur origine. Et ces guerres commerciales pourraient être les prémices d'autres confrontations. Plutôt que de conduire à un équilibre stable des pouvoirs, l'émergence de nouveaux centres de pouvoir idéologiquement divers pourrait déclencher de nouvelles courses aux armements, nucléaires et conventionnels, avec un potentiel de crise et d'escalade, indiquent les organisateurs de la conférence dans leur rapport, tout en indiquant que l'absence de guerre majeure depuis près de 80 ans entre les principales puissances mondiales ne peut plus être désormais, dans le nouveau climat multipolaire confirmé par le retour de Donald Trump, un exploit tenu pour acquis. C'était les États-Unis, une nouvelle menace sur le reste du monde, un texte de Fabien Deglise paru le 11 février 2025 dans Le Devoir.
De campus anglophone controversé à nouveau pavillon pour le collège de Bois-de-Boulogne. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 24 février 2025 dans Le Devoir. Un ancien campus montréalais controversé du cégep de la Gaspésie et des Îles, qui accueillait uniquement des étudiants en anglais avant d'être mis en location dans les derniers mois, a trouvé une nouvelle vocation, a appris Le Devoir. Le collège de Bois-de-Boulogne en fera un pavillon destiné à accueillir, d'ici 2 ans, quelques 1600 étudiants en santé et en francisation. Situé sur le boulevard Henri Bourassa, tout juste à côté de la station de métro du même nom, dans l'arrondissement d'Ahnsic-Cartierville, ce bâtiment d'apparence anonyme a accueilli pendant des années un campus proposant des attestations d'études collégiales offertes uniquement en anglais à des étudiants venus surtout d'Inde et de Chine. Il portait alors le nom de Collège Matrix. Cette situation avait soulevé, en 2020, l'ire du Mouvement Québec français ainsi que de l'ancien ministre de l'Éducation, aujourd'hui responsable de la langue française, Jean-François Roberge. Ce dernier avait alors réclamé que la langue de Molière soit plus promue entre les murs de cet établissement. L'homme d'affaires ontarien Naveen Colan, le fondateur de la compagnie détenant ce bâtiment, le groupe Hermès, a pour sa part été arrêté par l'Unité permanente anticorruption en 2020 pour son rôle dans la mise en place d'un réseau de recrutement d'étudiants étrangers par des collèges privés au Québec. Le Collège Matrix a déménagé, il y a quelques mois, dans un autre bâtiment détenu par la même entreprise, situé sur le boulevard Crémazie, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel par extension. Le cégep de la Gaspésie et des Îles a toutefois mis sur pause le recrutement de nouveaux étudiants dans ce bâtiment, a confirmé l'établissement au Devoir. Une nouvelle vocation. Laissé ainsi vacant depuis le printemps 2024, ce bâtiment, toujours détenu par le groupe Hermès, a été sélectionné dans les derniers mois par le Collège Bois de Boulogne, qui a décidé de louer celui-ci pour 10 ans afin d'y aménager un nouveau pavillon. Une annonce à ce sujet a été organisée lundi matin en présence notamment de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry. Le Devoir a toutefois pu consulter les détails de cette annonce sous embargo. Ainsi, ce bâtiment ouvrira progressivement à partir de l'hiver 2026 et sera entièrement occupé à l'automne 2027. Il accueillera entre ses murs plus de 400 étudiants en francisation afin de répondre à une demande croissante à cet égard dans la province. Un étage du pavillon accueillera par ailleurs 1050 étudiants dans 3 formations préuniversitaires, techniques et continues en soins infirmiers, tandis qu'une autre partie du bâtiment servira à former 150 étudiants dans des programmes de formation continue en administration. Évidemment, c'est beaucoup, 1600, mais une large proportion de ces étudiants-là seront dans un parcours en mode hybride, avec de l'enseignement en distance et en présence, dans ce pavillon-là, a expliqué en entrevue le directeur de la formation continue et des services aux entreprises du Collège Bois de Boulogne, Simon Delamarre. Ce projet bénéficie d'un investissement de 14,5 millions de dollars de la part de Québec. Du lot, 10 millions serviront à payer le loyer du bâtiment et le reste à financer l'aménagement des lieux et à acquérir de l'équipement informatique, de simulation en soins infirmiers, ainsi que du mobilier adapté aux besoins de cette extension du cégep. On souhaite que ce soit un environnement moderne, particulièrement dans la zone santé, dans un contexte où les milieux de soins se modernisent et où la santé numérique change la fonction de travail, a ajouté M. Delamarre. La directrice générale du cégep, Pascale Sirard, s'attend pour sa part à ce qu'en combinant les formations déjà offertes dans son établissement et celles qui seront proposées dans ce pavillon, l'établissement devienne le plus grand centre de formation en soins infirmiers au Québec. La gestionnaire, dont le cégep accusait l'an dernier le déficit de maintien d'actifs le plus élevé dans le réseau collégial, souligne d'ailleurs que son établissement avait besoin de nouveaux espaces pour répondre aux besoins de sa population étudiante croissante. Ce que ce pavillon permettra de faire. Je suis très heureuse d'assister à la concrétisation de ce projet, qui va nous permettre d'accentuer nos efforts dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée en offrant aux étudiants un environnement stimulant avec des installations à la fine pointe, a pour sa part déclaré la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, par voie de communiqué. Un nom officiel pour ce nouveau pavillon sera déterminé au terme de consultations avec la communauté étudiante du cégep qui seront menées au cours des prochains mois, a indiqué le collège au Devoir. C'était « De campus anglophone controversé à nouveau pavillon pour le collège Bois de Boulogne ». Un texte de Zachary Goudreau, paru le 24 février 2025 dans Le Devoir.
Steve Poutré, quand on se donne le droit d'écrire. Un texte de Catherine Genet, paru le 9 décembre 2024 dans Les Libraires. Cette année, le prix le plus prestigieux de notre écosystème littéraire, celui du gouverneur général, revient à un écrivain qui vient de se mettre au monde. En 2024, L'Écru a été le seul premier roman à être sélectionné par Antoine Tanguay, fondateur et patron d'Alto. Publié sous l'enseigne d'une maison aussi réputée et bénéficié de l'accompagnement éditorial de Catherine Leroux, romancière chevronnée, pensons au récent Peuple de verre, était déjà une victoire en soi, un privilège à honorer. Citation « Quand tu signes avec Alto, résume Steve Poutré, tu te retrousses les manches. » Fin de citation. Et il n'a visiblement pas chômé. L'Écru est un roman diablement bien écrit, construit autour d'un narrateur tourmenté, énigmatique. Son histoire est forte et intrigante, difficile à oublier. Campé dans la ferme de son enfance, dans ce petit village des cantons de l'Est rongé par les drames et habité par des fantômes, L'Écru révèle la campagne québécoise sous un jour tragique, mais aussi la voix d'un écrivain. Pourtant, le principal intéressé a longtemps été paralysé par le doute. Citation « En allant au lancement du livre de ma cousine Rose-Aimée Autonne-Témorin, Il préférait les brûler, ça m'a donné le goût d'écrire, de raconter mon histoire. Mais je me demandais s'il y avait assez de crunch dans ma vie. » Fin de citation. C'est pendant la pandémie, peu après la parution de sa célèbre parente, que Steve Poutré a finalement décidé de prendre le taureau par les cornes. Citation « En 2020, j'ai eu 40 ans. Depuis toujours, je rêvais de faire un roman, mais j'avais le syndrome de l'imposteur. Je n'ai jamais fait d'études en littérature, je n'ai jamais étudié dans une université. » Fin de citation. Il ajoute, citation « Ça peut sonner prétentieux, mais les gens me disaient que j'avais une bonne plume quand j'écrivais des courriels, mais je n'avais jamais été au-delà d'un gros post sur Facebook. En entrant dans l'aventure du roman, je ne savais pas si je serais capable de produire un tel volume de texte. Au début, c'était un défi, mais je me suis fait prendre à mon propre jeu. Chaque fois que je rouvrais mon document Word, c'était comme un cadeau que je me faisais. » Fin de citation. Homme libéré. L'Écru est un texte important qui aborde de plein front la dépression et les idées suicidaires des hommes en milieu agricole. Des hommes comme le père, les frères, le cousin et le grand-père de l'auteur, qui ne lésinent pas par ailleurs à partager quelques-uns des épisodes les plus traumatisants et véridiques de sa jeunesse. D'autres passages relèvent de la fiction pure ou de l'exagération. Nous y reviendrons. À l'heure où les mâles dits « alpha » défraient la chronique, l'œuvre encore fraîche de Steve Poutré a tout d'un contrepoids. En entrevue, il me fait remarquer que ses personnages font écho à ceux de Sébastien Dulude, Amiante, Hakim Gagnon, Granby au passé simple, William S. Messier, Le Miraculé, Michel-Maxime Legault, Michelin, et Jean-Philippe Plot, Rue Duplessis. Ses contemporains qui ont, au cours de la présente année, proposer d'autres modèles masculins, plus sensibles et en phase avec leurs émotions. Citation « Ça adonne que c'est des auteurs que j'ai rencontrés en personne cette année, pendant les salons du livre, et qu'on a tous eu de belles conversations autour de ça. » Fin de citation. Sans parler d'un nouveau courant littéraire, parenthèse, qui serais-je d'ailleurs pour décréter pareille affaire, fin de parenthèse, force est d'admettre que la scène québécoise tranche avec celle de la France où Michel Houellebecq et autres Frédéric Beigbeder font encore le bonheur des marchands qui tiennent des formats de poche. Dans la belle province, en 2024, la plupart des romanciers à succès semblent avoir tiré une leçon de « dièse moi aussi ». De la suite adobée au traitement de texte. Designer depuis un quart de siècle, le créateur de L'Écru s'avère affable et drôle, à ma grande surprise. Steve Poutré n'est pas cet être taciturne que j'imaginais, que je croyais en phase avec le héros de son roman, ce personnage si incarné que je l'ai d'abord cru porteur d'un récit autobiographique ou, à tout le moins, autofictif. Dans les pages construites par Poutré, « je » est un autre, du moins partiellement. Citation « Au début de mon processus d'écriture, je n'explorais pas encore l'aspect de la maladie mentale. C'est venu plus tard, cette idée d'avoir un narrateur qui écrit à partir d'un lit d'hôpital, alors qu'il est dans une espèce d'état de psychose et gardé dans un institut psychiatrique. Au départ, c'était un projet qu'on aurait pu appeler « Chronique d'un ancien fermier ». Mais plus j'avançais dans l'écriture de mes chapitres, et plus j'avais envie de leur donner une touche plus dramatique, avec un effet presque à la Stephen King. Je commençais à flirter avec l'horreur, à trafiquer mes souvenirs d'enfance. Ça m'a amené dans une autre zone. Fin de citation. On récolte ce que l'on sème. En remportant un prix littéraire du gouverneur général, Steve Poutré empoche 25 000 $ et succède à Anne Hébert, Régent du Charme, Antonine Maillet, Gabriel Roy, Marie-Claire Blais, Robert Lalonde et Dominique Fortier, pour ne nommer qu'une poignée de légendes littéraires. Or, le designer graphique ne s'y attendait pas du tout. Citation. « Quand on m'a dit que j'étais finaliste, j'étais en train de préparer ma fille pour aller à l'école, ma fille de 7 ans. On était dans le rush, dans les lunchs, le brossage de dents. J'ai vu entrer un courriel du Conseil des arts, mais sur le coup, je n'ai pas allumé. Je l'ai lu en diagonale. Ça me demandait de confirmer mes informations personnelles, mon numéro d'assurance sociale. Je pensais que c'était du spam. Je m'en allais le jeter. » Fin de citation. Finalement, c'est en recevant des textos le félicitant que l'auteur a compris. Dans ce club des plus sélects, auquel il appartient à présent, la tradition veut que le gagnant de l'année précédente téléphone à son successeur. En l'appelant, Marie-Hélène Poitras, autrice chez Alto elle aussi, lauréate pour Galunf, un recueil de nouvelles, y est allée d'une recommandation. Citation. Elle me suggérait de faire une dépense, de me gâter. Mais pour l'instant, je veux juste voir le montant dans mon compte. Je veux le laisser là pour le contempler. Fin de citation. Même s'il se promène avec sa bourse en bandoulière, le père de l'écru ne tient rien pour acquis. Tout à ses yeux reste à faire. Citation. Au Québec, il n'y a absolument rien de garanti avec personne. Ce n'est pas un secret. Je n'ai pas signé 5 romans avec Alto. En plus, Antoine Tanguay, c'est le gars qui a le moins la langue dans sa poche que je connaisse. Si c'est pas bon, mon deuxième, je vais le savoir. Fin de citation. En tout cas, si pareil désaveu devait survenir, ce qui m'étonnerait beaucoup, nul doute que d'autres éditeurs se bousculeraient au portillon. C'était Steve Poutré, Quand on se donne le droit d'écrire, un texte de Catherine Genet, paru le 9 décembre 2024 dans Les Libraires.